azzurra. E la radio francophone d'Auckland, Amuse Gueule.
Ça fait plaisir, pour une fois le jingle marche super bien, on est tous à la bonne heure en ce dimanche très très ensoleillé, c'est l'été qui revient en fait. La revanche de l'été, qui n'a pas eu lieu cette année, arrive fin mars, c'est sympa. Nous sommes le dimanche 19 mars, c'est ça, on est le 19
ou... Bah oui, c'est le solstice,
voilà, c'est 20 mars. Ou c'est le 20 mars, solstice du printemps, donc d'automne ici.
Ouais.
Mais les kiwis, ils croient que ça marche le premier du mois. Donc pour les kiwis, on est en automne depuis déjà 3 semaines. Mais j'ai toujours trouvé ça bizarre. Chez nous, on marche ça avec les solstices. Donc demain, été en France, printemps en France, automne en Nouvelle-Zélande, techniquement, d'après le soleil. Merci Yvan d'être dans la salle à la techno, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et puis Else.
Bonsoir.
Et puis Virginie, une petite nouvelle qui vient nous rejoindre.
On en parlera, bonjour.
Et puis c'est David à l'animation. Petite tristesse. Je crois que j'ai oublié de dire bonjour, kia ora, good evening en plus.
Kia ora.
Kia ora. Donc bonjour, good evening, kia ora. En ce dimanche 19, petite tristesse, Chuck Berry, donc quand même l'une des grandes figures du rock and roll, que certains disent c'est l'inventeur du rock and roll, et vient de décéder aujourd'hui.
À quel âge ?
Je ne sais pas, j'ai pas regardé l'internet, j'ai juste eu un message de ma femme en me disant Chuck Berry est décédé. Mais à mon avis, il était plutôt jeune, parce que rock'n'roll, c'est dans les années 50, donc ouais. Donc voilà.
Bah, c'est vrai que.
Et on va rechercher ça sur l'internet d'ici 10 minutes après la chanson, ou durant la chanson, allez, ouais. c'est le style du jeu. Je vous passe l'un de ses grands titres, et de suite, je mets ça, le son à fond, et c'est parti.
Donc, rest in peace. Yes, rock and roll.
Voilà, Johnny B. Goode, Chuck Berry, décédé aujourd'hui. Il était né le 18 octobre 1926, donc 90 et des brouettes. Pourquoi ça marche encore ? Voilà, c'est bon.
Il était revenu ?
Parce qu'il est revenu. Non, donc un petit coucou à Chuck Berry. Rock and roll. Voilà. Donc, comme je disais, on a Virginie dans la salle, petite nouvelle qui vient de nous rejoindre. Elles aussi, on va parler institut de sondage. Moi, si j'ai le temps, je parlerai un peu politique. J'avais eu l'idée de parler de quelques sondages politiques, en fait. Rugby, les Six Nations, si on a le temps, aussi un petit peu de nouvelles franco-européennes du rugby, juste parce qu'on habite en Nouvelle-Zélande. Donc, si on parle pas rugby, on parle de rien. Non, je rigole. Et puis, Yvan, t'as envie de parler de concert, t'es allé voir quelque chose.
Oui, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est bien. Ah, aussi de trois films que je suis allé voir, qui font partie du festival français, de films français, voilà. Organisé par l'Alliance française.
Ouais, tout va bien, on va parler de films. Justin Bieber, il y a.
T'es allé voir Justin Bieber?
Non, toi, t'es allé voir.
Ah ouais.
Voilà.
Je suis à fond, moi.
Non, moi, non. Mais il est là en ce moment?
Ah ben, peut-être.
Oui, il était à WOMAD, je crois. Je crois qu'il était à WOMAD.
Il était à Auckland hier soir.
Ou à Auckland hier soir.
Queenstown ce soir.
Oui, c'est ça. Donc il bouge.
Légende de la musique. Hein. Heureusement qu'on a passé Chuck Berry. Hein. Ouais, je ne passerai pas Justin Bieber.
Voilà.
Je ne suis pas une fan. Quand on a un concert.
Bah, c'est gros pour la tranche des 15-25 ans, j'imagine, voilà. Et quelques autres doivent aimer beaucoup. Donc ça, il doit remplir ses salles de toute façon.
Et Adèle la semaine prochaine.
Et là, c'est carrément plein aussi. Toujours. Et elle a fait double ou triple concert, elle aussi. Hein, c'est ça, elle devait en faire qu'un. Hein.
Ouais. Ouais, Justin Bieber, vu que tu en parles, c'est pas vraiment quand même un artiste de scène, hein, puisque la plupart du temps, il fait du playback. Donc c'est plutôt.
Même sur scène?
Bah oui, surtout sur scène. Hein.
Ah.
Donc,
Je crois qu'il danse surtout. Oui.
Il danse.
À mon avis, il danse beaucoup. Je ne sais pas s'il chante beaucoup.
Ouais. Bah, il y a des backup voice, comme ils disent. Je ne sais pas. Je ne connais pas bien le phénomène.
Non, non plus.
Voilà. Alors, Vinny, puisque tu parles de Justin Bieber, on va continuer. C'est ta première fois à la radio, bienvenue. Et, alors, tu viens d'où? T'es française de quel coin?
Alors, à l'origine, pardon, de Normandie.
De Normandie.
Et après Londres pendant 8 ans.
D'accord. Et en Normandie, c'était quelle partie de la Normandie? Il y a 5 départements quand même.
La Manche.
La Manche.
Donc, Granville, pour ceux qui connaissent.
Oui, ouais, on peut prendre le ferry pour aller à Jersey, Guernsey, c'est ça?
C'est ça. En général, on ne connaît pas, mais les gens connaissent de nom, mais ils ne connaissent pas nécessairement le fait que Christian Dior est né là-bas.
Ah ouais, non, je ne savais pas.
Oui.
Moi, j'ai fait un stage de voile à l'âge de 14 ans pendant une semaine à Granville. Voilà. C'est
ce que je connais. Joli petit village.
C'est très joli, le port de pêche est sympa.
Et voilà, donc Normandie, Londres pendant 8 ans et.
Tu faisais quoi à Londres?
Je faisais quoi à Londres?
Tu travaillais?
J'ai fait beaucoup la fête, je dirais.
Ouais.
Ouais, beaucoup la fête. Et j'ai rencontré mon mari aussi là-bas. Et puis, du travail un peu quand même, hein, faut bien.
Dans quel type de branche?
Et pareil qu'ici, directrice des achats, plus ou moins. Procurement manager, c'est le nom. Mmh. Et directrice des achats.
D'accord.
C'est à peu près.
Et dans une entreprise étatique ou pas du tout?
Alors, j'ai plusieurs, non, gouvernemental ici, mais en Angleterre, surtout privé. Donc, j'ai bossé pour Accor Hotel.
D'accord.
Donc, c'est une des plus grosses entreprises françaises qu'il y a, en tout cas à Londres. Et puis, d'autres entreprises un peu plus petites. Pour ceux qui connaissent, j'ai bossé pour Foxtons, mais je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent. Mais,
non, ça ne me dit rien. Et pour Accor Hotel, tu procurais pas les hôtels eux-mêmes, les draps, les savons, c'est quoi le
procurement?
C'est ça, voilà. Ouais,
c'est ça.
Donc c'est toi l'acheteuse de savon pour tout le groupe sur l'Angleterre, c'est comment tu faisais?
Ah non, en fait, c'est surtout acheté en France, ils font leurs propres négociations en France, que le plus gros, la centrale d'achat, elle est surtout en France. Donc en Angleterre, finalement, on fait en sorte d'acheter...
De
France, voilà, ouais. De France. Mais évidemment, il y a des achats locaux qui se font aussi, donc c'est à peu près, donc c'est les achats avec la France et les achats locaux.
D'accord. Bon, sympa. Voilà. Et alors, au bout de 8 ans en Angleterre, donc Londres, la ville même, la capitale ou...
Londres, ouais.
Ouais. Oui, donc on fait la fête à Londres. Ouais.
Oui, on a surtout fait la fête et puis à un moment,
faut rentrer.
Faut bouger surtout.
Faut bouger.
Donc voilà, mon cher et tendre a voulu
qui
revenir.
Qui est kiwi donc.
Qui est kiwi d'ailleurs, oui, et a voulu rentrer. Donc.
Et là, tu t'es mariée à Londres ou tu t'es mariée en Nouvelle-Zélande ou en France?
Ni l'un ni l'autre, je me suis mariée à Cuba en fait.
Cuba, c'est sympa.
C'est original.
Oui, ouais. C'est original. Oui, c'était c'était l'un ou l'autre, et puis finalement on s'est dit pourquoi pas.
Au milieu, boum.
Oui, bah surtout ce que j'aime bien la salsa, puis ça intéressait, ça nous intéressait de toute façon, puis on s'est dit ouais, on va aller là-bas.
Pour que ton homme danse aussi.
Je dirais, il aimerait bien danser. Ouais.
Il aimerait bien danser. Oh là, t'es vache. Ou il aimerait bien prétendre qu'il peut.
Oui, je pense un peu des deux, ouais.
Déjà, essaye, c'est déjà pas mal.
Ouais, ouais.
Alors, donc, ça fait combien de temps que tu es arrivé à Auckland?
Ça fait 7 ans.
En Nouvelle-Zélande? 7 ans. Mm-hmm. Donc, 8 ans en Angleterre, 7 ans en Nouvelle-Zélande, pas
donc
mal.
En France.
Et une semaine à Cuba seulement, ou combien de temps à Cuba?
Deux semaines. Donc là, le plan, c'est quand on fête nos 10 ans de mariage, on y retourne.
C'est l'année prochaine, tu disais. Hors antenne, tu disais, c'est l'année prochaine, c'est les 10 ans, c'est ça?
Ouais, ah, donc Dieu, c'est... Pardon?
Tu t'es mariée en 2008.
Je me suis mariée en 2008,
ah, ouais, moi aussi.
Non, vous avez des points communs,
ouais,
les filles.
On a plein de points communs, finalement. donc voilà, donc on va y retourner, faire
c'est
la deuxième partie de l'île. Ouais.
Cuba Libre numéro 2. Ah bah c'est chouette, ça, comme rencontre. Et donc maintenant, tu fais quoi depuis que tu es arrivée en Nouvelle-Zélande?
Donc je fais ce que je faisais déjà à Londres, directrice des achats.
Voilà.
Et pour le moment, je travaille pour Auckland Transport.
Et ça marche comment? T'achètes des autoroutes, t'achètes des voitures, t'achètes de l'électricité, t'achètes quoi?
Alors je fais tout ce qui est opérationnel, donc essentiellement en ce moment les contrats des transports. De bus, ferry.
Voilà. En fait, donc, t'écris beaucoup de paperasse très très longue parce que
j'en
c'est
lis
les contrats.
Beaucoup, ouais. Ouais. Je lis beaucoup de paperasse et je fais beaucoup de tout ce qui est.
Et tu fais signer
accession.
Les directeurs au-dessus de toi, ça, voilà, les grands patrons.
Voilà.
Et alors, pourquoi tout le monde se plaint des transports publics à Auckland?
Mais je sais pas.
Parce qu'il y en a pas beaucoup.
Faut me dire. moi, je les trouve très bien. Je les utilise tous les jours.
Ouais, mais t'habites où à Auckland, toi?
Newlyn.
Newlyn, oui, c'est assez. Bah, ils ont mis la voie à deux rames il y a 4 ans, 5 ans. Donc, mm-hmm. Les trains ont doublé. Et ils ont électrifié la rame
voilà.
aussi. Donc, voilà. Donc, elle habite au bon moment. Il y a aussi pas mal d'autoroutes qui vont jusqu'à Newlyn ou à côté. Il y a quelques bus. Donc, c'est pas mal. Il n'y a pas de bateau, par contre. Hein. Newlyn, c'est loin de.
Ah, ouais, c'est un peu loin pour les bateaux.
Ouais.
Hein. Mais là, on va avoir Waterview Tunnel qui arrive bientôt en plus. Enfin, c'est pas Auckland
oui,
Transport,
ça, c'est
MZTA. Mais
qui relie la route de l'aéroport juste
voilà, jusqu'à Motorway.
Bah, il faut savoir
14.
Que, oui, Virginie a raison. Les autoroutes, inclus celles d'Auckland, c'est pas au transport d'Auckland. C'est le
NZT.
Nouveau gouvernemental, NZ.
Okay.
Mm.
Mais les transports en commun, c'est quand même extrêmement cher hein, à Auckland.
Bah,
avec la carte, je crois que ça se démocratise.
Il me pose une colle un peu, mais alors je trouve pas particulièrement.
Par rapport à Paris ou à Londres, c'est plus cher, moins cher. Tu,
non,
tu,
mais je
tu as des souvenirs.
Disons que pour des gens qui n'ont pas trop de sous, c'est assez cher, quoi.
Mais je trouve que c'était exactement pareil à Londres. Enfin, je pense que de manière générale, les transports, c'est un service qui coûte cher. Donc en fait, je pense que si c'est cher, parce que le transport en lui-même.
Il faut acheter les bus, les bateaux. Faut,
voilà,
les machins,
en fait, hein. Je pense qu'il y a toujours un peu. Il y a beaucoup d'investissements à faire, c'est beaucoup d'entretien finalement. Donc je pense que c'est pas typique d'Auckland. Je pense que c'est à peu près partout. Ouais.
Parce que le métro RATP, le ticket maintenant, il est assez cher. Hein. Le carnet de 10 il y a 40 ans, c'était pas cher, mais le carnet de 10 maintenant, il commence à douiller, quoi.
La différence, c'est que je pense à Paris, les gens le sentent pas tellement parce que les patrons payent la moitié du ticket.
Et puis on peut faire des changements qui nous permettent de faire des trajets assez complexes, alors qu'ici, dès qu'on quitte le bus, il faut qu'on repaye un autre.
Ah, plus maintenant.
Plus maintenant,
ah,
avec
plus
la
maintenant.
Carte.
Oui, maintenant, c'est,
ah,
c'est
la même chose.
Ça fait presque deux ans maintenant, c'est ça?
Non, ça s'est fait l'année dernière. Donc,
non.
Donc, s'il y a un système de zone, donc si tu restes dans la zone 1 ou 2.
On peut naviguer dans.
Oui, c'est pareil que Paris et pareil que.
Ah, bah ça, c'est une bonne
nouvelle.
Pareil que Londres,
ouais.
J'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté politique d'inciter les gens à prendre les transports en commun, parce que les Kiwis aiment bien prendre leur voiture, donc les routes sont. Enfin, le pont, les matins, c'est une catastrophe.
Mais les trains aussi sont en train de se développer en ce moment.
Dans les nouvelles, la semaine dernière, ils disaient qu'il va y avoir un train du North Shore, c'est ça? Jusqu'au centre? Mais c'est dans 30 ans.
Oui, je pense que ça va pas arriver tout de suite.
Ouais, c'est des investissements assez lourds.
Oui, je pense que, à mon avis, 30 ans, ça me paraît à peu près. Une bonne durée pour imaginer le train là-bas, mais
quand même
ça coûte cher hein.
Ouais,
Surtout dans le North Shore, il y a quand même un système de bus qui marche quand même assez bien, donc c'est pas vraiment une priorité. Ce qui est un peu dommage pour le North Shore, c'est qu'ils payent des impôts comme tout le monde, mais qu'ils ont pas, finalement, ils ont pas vraiment de système de transport développé.
Non.
Mais, donc ça, c'est un peu dommage, mais je pense que niveau des politiques, non, au contraire, ils ont vraiment envie que les gens utilisent les transports dans la mesure où plus ça va aller, plus les gens vont se retrouver bloqués sur les routes.
Et les vélos aussi.
Je comprends un peu ce que dit Yvan. Moi, ça fait 22 ans que je suis ici. Les politiciens de maintenant en parlent. Mais dès qu'il faut mettre l'argent, donc le côté budgétaire, c'est on va donner de l'argent à NZTE pour faire des plus grosses autoroutes tout de suite. Et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, le train, c'est un petit peu, on a vu la bataille du maire d'Auckland pour faire le loop, pour le train souterrain qui est juste un circulaire. Ça a mis 5 ans pour juste faire une bataille, pour juste demander à l'État, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, participer un petit peu et avancer de l'argent aux Aucklandais. Mais à part ça, la volonté nationale et politique générale kiwi, c'est pas vraiment on va donner beaucoup d'argent aux vélos, aux trains et autobus. Ils s'en foutent un peu, quoi.
Je pense qu'historiquement, c'est plus s'il y a un besoin, on répond aux besoins. Alors que je pense que maintenant, leur façon de gérer la situation, c'est plus de gérer la demande. Donc de pas faire en sorte que les gens aient besoin, de répondre aux besoins, mais de réorienter vers autre chose. Donc c'est pas de dire on va construire des plus grosses autoroutes, c'est plus de dire. Est-ce qu'on peut faire en sorte d'améliorer l'accès au transport public? Donc ça va être peut-être construire des park and ride avec des plus grosses capacités, des choses comme ça, ce qui fait que ça pousse les gens vers les transports
en commun. Mais c'est lent parce que culturellement, parce qu'il y a d'autres gens qui en parlent, culturellement les kiwis sont pas habitués encore. On n'est pas habitué à se mettre dans le bus et à faire la queue ou se mettre dans le train et faire la queue.
Il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture individuellement.
Trop en fait, c'est ça le problème.
Il y a beaucoup trop. Ils font pas de covoiturage.
Il y a pas beaucoup de covoiturage. Ouais. Pourtant, les sites internet existent depuis au moins 10 ans. On en parlait déjà il y a 10 ans de sites internet mondiaux et de sites internet locaux pour faire du covoiturage. Mais ça marche pas beaucoup.
Et il y a des. Donc je pense que tu as un système de parking, il me semble, où si tu fais du covoiturage, ça te coûte moins cher. Et c'est pareil pour avoir les accès aux lignes de bus. Plus tu as de gens dans ta voiture, plus tu as accès aux lignes de bus. Donc, je pense que c'est juste culturellement.
C'est culturel, ça marche pas encore. Parce que je vois encore très souvent, je prends l'autoroute nord-ouest et après l'autoroute nord qui va vers la ville. Donc, il y a Constellation Drive. Et le T2 là, je suis l'un des trois ou quatre. Je suis l'un des seuls avec mon fils ou ma fille ou ma femme dans la voiture. Donc, on est deux ou trois ou quatre. Et je suis l'un des seuls sur la T2. Et il y a 100 voitures qui font la queue ils sont tout seuls.
Mais à moyen terme, il y aura aussi les voitures autonomes.
Et les électriques, ça y est,
Les autonomes, donc tu n'as pas besoin de les conduire. Donc ce qui va arriver, c'est que les gens vont prendre la voiture juste pour faire un trajet. Ce sont des voitures qui seront partagées. Donc il n'y aura plus le problème de se parquer parce qu'il suffira de prendre la voiture pour faire son trajet. Et du coup, il va y avoir probablement un bouleversement,
Il parle que c'est pas là d'ici 30 ans quand même. C'est pas en fait, il y a beaucoup de solutions. J'ai l'impression que c'est tout
d'ici 2050. Ça arrivera.
J'ai 50 ans maintenant, en 2050.
Heureusement qu'on est jeune.
Tes enfants.
Tu ne verras jamais.
Mais il y aura un bouleversement, je pense, par rapport à ça. Donc, je sais pas si ça freine ou alors si. Ils réfléchissent à faire des autoroutes pour les voitures autonomes.
Là, ils vont négocier pour que les lignes de bus, les T2, tout ça, que les 3000 véhicules électriques vont pouvoir y aller gratuitement. Donc, et ça, c'était cette semaine aussi dans les nouvelles.
C'est pour pousser justement les gens à utiliser les voitures électriques.
Enfin voilà, on se passe une petite musique et puis on pose d'autres
bien
questions.
Bien sûr, on va se passer une musique.
C'est toi qui as choisi là, Yvan, c'est ça?
On a commencé fort avec Chuck Berry, qui est quand même la légende du rock. Si les Rolling Stones existent, c'est grâce à Chuck Berry. Ils ont piqué les riffs de Chuck Berry, Keith Richards, notamment. Et les Pixies sont venus à Auckland. Pixies. Donc les Pixies, un groupe fin des années 80, début des années 90, avec un groupe majeur, on va dire, hein, l'équivalent des Beatles ou des Rolling Stones des années 70. Hein. Et,
donc là,
grosse guitare, poésie énorme de Frank Black, le guitariste des Pixies. Moi, je fais le concert.
Bon, c'est le frère de Machin Black, hein, l'acteur, hein, c'est ça?
Non, je pense pas, non.
Je croyais qu'ils étaient frangins, qu'après, ils avaient fait un groupe tous les deux.
Je crois pas, non.
Non?
Non.
Il est pas chaud, il est rond et fort.
Si, 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 Frank
si,
Black.
C'est son frère.
Ouais. Ah, bah, ok, je savais pas.
C'est le frère du comédien Black.
Jack Black.
Jack Black?
Voilà.
Ah bon?
Ouais. Ils ont fait, après quand les Pixies se sont dissous dans les années 90, fin 90, en fait, Jack Black et Frank Black se sont mis tous les deux. Ils ont créé le Tenacious D. C'est eux. Et après, Jack Black a fait tellement de films depuis qu'il, en fait, il fait plus de musique, mais de temps en temps, il s'amuse à faire de la zik comme ça. Mais c'est son frangin, ouais.
Ouais, c'est génial. Je le savais pas. En tout cas, le concert s'est déroulé à Victor Arena, c'était plein. Et moi, bien entendu, j'étais pas assis, hein, parce qu'un concert rock assis, non merci. Donc j'étais au deuxième rang. Et ça m'a fait plaisir de voir des jeunes de l'âge de mes filles en année 12, donc l'équivalent en première, quoi, qui étaient devant et qui attendaient ça avec impatience. C'était probablement le premier concert de leur vie. Et, concert des Pixies, quand même,
c'est pas mal,
quelque chose. Hein. Bon, il faut dire que la bassiste de la formation originale
n'est plus là.
Elle était remplacée par, je me rappelle plus son nom, mais c'est une nana qui joue dans un groupe qui s'appelle The Entrance Band, un groupe assez psychédélique rock, très bonne à la basse et au violon. Et donc des gens de mon âge, hein, 27 ans, puis un peu plus vieux comme toi, David, dans la cinquantaine, soixantaine, quoi.
Bah oui, Frank Black, il doit avoir la cinquantaine, oui, j'imagine maintenant.
Ouais, ouais. Ouais. Donc on va s'écouter une petite musique de l'album Doolittle, si ça passe. Gouge your way, you can gouge your way. We'll be right back. Voilà, c'était les Pixies qui étaient à Auckland il y a une semaine de ça. Un groupe qui a influencé des milliers d'autres groupes, dont Nirvana, par exemple, ou Pearl Jam, ou plein d'autres groupes. Donc, Tenacious D, je ne connaissais pas.
Bah, je vérifierai à la maison, mais je crois que donc, son frangin Jack Black et lui, après que les Pixies soient séparés, ils avaient fait Tenacious D, donc un petit groupe. Ils avaient fait sorti deux ou trois albums au début des années 2000, fin 90-2000.
Ouais, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont au courant, notre numéro de téléphone, c'est 815-81-00. Ouais, ouais. 815-81-00.
La vérité, je suis pas en train de regarder sur mon téléphone si j'ai tort ou si j'ai raison. Je mettrai un démenti sur Facebook si je me suis gouré.
Histoire très intéressante.
Ouais. Enfin voilà. Mais donc c'est de bonnes guitares quand même.
Frank Black.
Et donc ça se tient encore au niveau guitare, jeunesse et tout.
Énorme. Et c'était énorme. Ouais. Énorme. J'ai l'impression de revenir à l'époque.
Non, c'est pas de la nostalgie qui parle. On veut pas savoir.
Non. Mais les jeunes étaient là pour une bonne raison. Et notamment le dernier album est fabuleux aussi.
D'accord.
Parce que s'il y avait au niveau des
ça se démode pas, c'est quelque chose. Non,
disons que Frank Black, même sa carrière solo, il a toujours fait des chansons superbes. Il a toujours des bons riffs.
Il y a des gens comme ça.
Bon, c'est sûr que Justin Bieber a encore du travail. Ça. Disons qu'il est mal parti là.
Bon, au niveau guitare, c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil.
Else, tu nous parles les instituts de sondage.
Les instituts de sondage, oui. J'ai entendu une émission très intéressante qui se posait la question pourquoi est-ce que les instituts se sont plantés sur le Brexit? Pourquoi ils se sont plantés sur Trump? Et
est-ce qu'ils vont se
plus petit
sur les
niveau pour les primaires françaises, parce qu'on avait donné Juppé et Valls gagnants. Est-ce qu'on peut encore croire au sondage et quelles sont les méthodes de fonctionnement? Et mon premier commentaire aujourd'hui, c'est en fait plus difficile de sonder les Français, parce que ce qui a vraiment changé, c'est le centre de gravité. Avant, on targuait, ça ne se dit pas en anglais, on ciblait des groupes. C'était les groupes qu'on sondait, donc des partis politiques ou des institutions, mais aujourd'hui c'est l'individu. Et donc l'individu, c'est effectivement plus complexe, ça va plus vite, c'est moins stable. Et en plus, quand par exemple donc l'antisystème est au centre d'une campagne politique, comme c'est le cas en France, les institutions sont perçues comme faisant partie du système et les gens ne vont plus forcément répondre.
Donc là, ils répondent plus au sondage eux-mêmes parce que c'est Ipsos,
ça fait
60 ans qu'Ipsos existe, je crois que c'est couru après la Deuxième Guerre mondiale.
Donc, ils sont tous vendus et...
C'est le système.
Donc ça, c'est ce qui complique encore les choses. Alors cette date de quand, donc très, de manière très schématique, la date de 1936 est donnée avec un certain monsieur Georges Gallop. C'est vraiment lui en 1936 qui a ciblé un échantillon d'une dizaine de milliers de personnes, mais il l'a vraiment ciblé et il a donné Roosevelt gagnant, alors que les autres instituts de sondage qui avaient recueilli 2 millions de réponses s'étaient complètement plantés. Donc à partir de là, Gallup est devenu une référence. En France, ça a mis un peu plus de temps. Le tout premier sondage IFOP date de 1936, mais les sondages prendront vraiment leur importance en 1965 lors de l'élection présidentielle où Saufresse et IFOP voient la défaite de Gaulle et là ils deviennent crédibles et ça commence à s'apprendre. Donc quelles sont les clientèles des instituts de sondage? Des entreprises qui sont lucratives. Donc on va sonder les gens, savoir si les mamans veulent des couches culottes, voilà. Et les sondages pour les politiques qui ne le sont pas vraiment, mais qui sont intéressants.
Sinon, il y a les journaux eux-mêmes. Les journaux eux-mêmes, enfin, les médias ont aussi intérêt à faire marcher les instituts
tout à fait.
De sondage.
Et ce sont les médias qui commandent les instituts. Oui. Alors, comment ça marche? Alors, tout au commencement, c'était donc le face-à-face, en fait, le porte-à-porte, hein, ce qui était quand même la meilleure forme, parce qu'on avait le temps, on pouvait sonder à personne, mais la forme la plus chère, la plus longue. Le téléphone a supplanté cette démarche, mais bon, il fallait quand même un appel sur 10 environ pour essayer d'avoir quelques réponses. Et vers les années 2000, Internet est arrivé et les sondages en ligne deviennent vraiment la norme. Alors, mon mari était très étonné quand je lui ai dit ça, mais moi, c'est l'information que j'ai trouvée. Et c'est vrai qu'Internet est quand même plus facile à, bah, à manier.
L'avancement de Survey Monkey, bah, Chimp Mail et Survey Monkey, il y a beaucoup de sondages maintenant en ligne, gratuits en plus, c'est-à-dire qu'on peut faire son questionnaire soi-même en 5 minutes, et puis, faire 5 questions et l'envoyer à 40 copains ou à 200 personnes dans l'entreprise.
Exact. Alors, comment trouver les sondés ? Alors, ils s'inscrivent eux-mêmes, ce sont des volontaires. Et le fait que ce soit des volontaires, ça change un peu tout. Parce que est-ce que c'est vraiment représentatif? On n'est plus vraiment représentatif. Et comment persuader donc ces volontaires de s'exprimer? Comment est-ce qu'on les incite? Eh bien, certains leur offrent des cadeaux et parfois de l'argent, mais des toutes petites sommes, hein, 50 centimes.
Oui, mais
un
quand
euro.
Même,
ou des bons d'achat.
Incités.
Donc il y a, voilà, il y a quand même. On le fait pas par gratuité, on le fait parce qu'il y a une petite carotte au bout. Bon, si on répond honnêtement, ça devrait pas poser un problème, mais c'est pas toujours le cas.
Il arrive à force, ça cible les gens. Par exemple, si la carotte c'est des couches bébés, ça cible les gens qui sont parents, qui ont des bébés. C'est pas ça cible pas les grands-parents qui ont pas de bébés.
Exact, c'est ça.
C'est ça le problème.
On n'a pas vraiment toute la population. Il arrive aussi que les sondés s'adaptent pour gagner des points ou pour donner la moins mauvaise réponse. Pour pouvoir poursuivre le questionnaire. Mmh. Alors, s'adapte, par exemple, pour gagner des points, ben, vous êtes fumeur, ben, non, je suis pas fumeur, mais je vais dire oui, parce que si je dis non, le sondage s'arrête là et je peux pas avancer. La moins mauvaise réponse, oui, c'est, pour les partis politiques, on choisit par défaut un candidat, mais c'est pas vraiment ça.
Vous vous souvenez de cet énorme questionnaire qui était envoyé en France? C'était un truc, je sais plus, ça faisait au moins 200 questions. Et il l'envoyait une fois par an, et c'était un sondage, et il demandait sur à peu près tout et n'importe quoi. Il disait, vous mangez quoi comme chips? Vous mangez quoi? Et en fait, le truc, c'est que si vous répondiez aux questions, ils allaient vous envoyer des bons d'achat, mais pour l'inverse de ce que vous aimiez, en fait. Parce que c'était, l'intérêt, c'était pas de savoir ce que vous mangiez, c'était l'intérêt, c'était de savoir ce que vous ne mangiez pas, comme ça, ils allaient vous envoyer des bons d'achat pour vous inciter à consommer.
Pas bête. Non, j'ai jamais eu ça, j'ai pas eu le temps.
C'était un truc, ça faisait, je sais plus, honnêtement, ça devait faire au moins 3-4 pages. C'était un truc à choix multiple.
Non, le seul truc que j'ai fait, moi, vraiment, c'est le census, tous les 5 ans. On dit census en français? Census en anglais? Le recensement, merci.
On
habite la Nouvelle-Zélande depuis trop longtemps, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Mais bon, c'est pas un fait nouveau de ne pas toujours dire pas la vérité, parce que dans les années 90, on avait donc ce Le Pen qui est arrivé au deuxième tour, et beaucoup de gens n'avaient pas osé dire qu'ils votaient pour Le Pen. Donc là aussi, c'est pas toujours
un nouveau.
Alors comment faire pour obtenir un résultat fiable? On faisait, mais on fait toujours d'ailleurs, du redressement, c'est-à-dire qu'on corrige un résultat brut. Exemple, donc on demande pour qui les gens on prend un score. Les gens ont voté, par exemple, donc pour Le Pen à 40%. Et si on réinterroge le même panel et les gens répondent deux fois moins pour le candidat parce qu'ils n'osent pas le dire, dans ces cas-là, on va multiplier les réponses par deux. On va redresser, on va faire un redressement du chiffre par rapport à un résultat concret.
Mais ça peut être faux comme vrai. Mais ça peut,
voilà. Donc comment les instituts de sondage procèdent réellement? Ben, ils le disent pas. Ils évoquent le secret des affaires. Pour eux, publier les chiffres bruts serait dévoiler leur technique ou leur secret de fabrication à leurs concurrents. Donc il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Et est-ce qu'il y a un moyen pour les contraindre à être transparents? Il y a eu en 2011 un socialiste sénateur, Monsieur Sueur, et puis un de ses collègues qui était de droite, qui lance une proposition de loi pour la transparence des chiffres, qui est votée à l'unanimité au Sénat, mais qui est restée en veilleuse pendant 4 ans à l'Assemblée nationale, car à l'époque, le président Sarkozy n'était pas vraiment pour cette transparence. Finalement, la loi a été adoptée, mais la loi n'est pas appliquée. Pas vraiment, parce que les instituts de sondage trouvent des astuces pour déjouer la loi et ne pas vraiment répondre aux choses. Donc, pour éviter d'afficher leur marge d'erreur, parce que la loi dit qu'elle doit être publiée lors de leur première diffusion, ils le font, mais sur leur site internet, là où personne ne va. Et du coup, lorsque c'est imprimé dans le journal, c'est pas marqué. ils ne le mentionnent pas. Ils n'ont pas besoin de le mentionner, ça a été déjà dit une première
fois. De plus en plus, c'est mentionné. Le chômage dont je parlais hors antenne tout à l'heure, je disais que l'un des derniers sondages, c'est Le Pen à 40%, Macron à 30%, Mélenchon à 17%, Fillon dans les choux, et à 13%, qui c'est qu'on avait Hamon à 13%. Et en fait, tout en bas, ils disaient qu'ils avaient interrogé que 1006 personnes. Donc j'ai dit, bon, ça fait pas beaucoup. Et ils mettent plus ou moins 3,6% d'erreur. Donc en fait, prends le moins à 3,6 et le plus à 3,6, en fait, c'est 7,2% d'erreur si tu prends le haut et le bas.
Après,
donc sur 1000 personnes, ça fait quand même 70 personnes d'erreur déjà. Donc j'ai été content. Tu te dis, bon, il reste plus grand chose qui est véridique sur un sondage comme ça, en fait. Et c'est ce qui t'a
interpellé. Parce que concernant aussi le redressement du chiffre, comment est-ce qu'il calcule le chiffre pour redresser, il publie que des critères de manière très vague. Donc on ne sait pas de combien ils redressent réellement leurs chiffres. Donc une commission de sondage a été créée suite à cette proposition de loi qui, elle, doit contrôler les dérives.
Mais ça, c'est en France. Il n'y a pas au niveau américain.
Non. Je parle du cas de la France. Mais les gens qui sont dans cette commission sont en général des magistrats à la retraite qui n'ont pas vraiment les compétences pour cette commission de sondage, ou alors des gens qui pratiquent ça comme une activité secondaire. Que fait cette commission concrètement ? Elle examine des examens, mais qui sont des examens de surface. Donc, quelquefois, la commission publie des mises au point quand un sondage n'a pas été fait dans les règles de l'art. En 1977, la loi permet des peines d'amende allant jusqu'à 75 000 euros. Elle n'a jamais été appliquée depuis 40 ans.
Ah oui, d'accord. Peine d'amende,
donc,
pourquoi ?
Pourtant, parce que cette commission marche de manière apparemment assez laxiste. Il y a des exemples de cas suspects. Par exemple, en 2014, il y avait le magazine Valeurs Actuelles qui évoquait un sondage donnant donc Nicolas Sarkozy le seul candidat qui pouvait gagner face à Marine Le Pen. Et en fait, le sondage n'existe pas. Et la commission n'a pas donné de sanction.
Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les sondages sont pas un peu un organe de propagande,
ils sont
de manipulation
au fur et à mesure, quoi.
Alors il y a un autre cas aussi de dysfonctionnement durant les régionales. Il y a plus d'un an, c'était le maire de Montpellier, c'était un dissident de gauche, qui brandait un sondage le donnant à 9,9% au seuil des 10% du deuxième tour, et un journaliste toulousain qui regardez les choses un peu plus près, il a découvert que l'Institut, qui était assez inconnu, n'a jamais fait de sondage de vote. Et la commission, qu'a-t-elle fait ? Après son enquête, elle a conclu que le sondage était dépourvu de caractère significatif. Oui, et elle s'est arrêtée là. Donc ce qui a joué, c'est le profil de la personne et non les faits. Donc il y a encore...
Donc il n'y a pas vraiment plus... Personne n'est puni, personne n'est arrêté, personne ne change.
Oui, il le traite de manière...
Par-dessus la jambe.
Un petit peu, oui.
Et vous pensez que ça allait être quoi, les élections au premier tour ? Vous pensez qu'il y aura qui, finalement, au deuxième tour ? Qui restera au deuxième tour ?
C'est pareil, difficile, là, mais j'imagine que Marine Le Pen a des chances d'être au deuxième tour.
Disons que Macron et Le Pen, c'est le cas le plus proposé, en fait. On reste prudent.
Depuis cette semaine où Fillon se retrouve, qu'est-ce qu'il a fait encore cette semaine ? C'est quoi dans les médias cette semaine ? La dernière, c'est il y avait les costumes à 3000 euros x 5 gratuits.
Oui, les affaires.
Non, 12 000 euros chacun. Donc il s'est fait acheter des costumes par un copain, avocat, et ça a été pas déclaré. Or, j'ai bien regardé la loi, il faut déclarer tout gain de plus de 100 euros en France. Okay. Pour le coup, il est encore plus dans le caca. Il est déjà pour sa femme et ses enfants pour le boulot pendant 10 ans. Donc là, il est pour les costumes. La police a fait les arrêts.
De toute façon, ça choque pas tellement les Français.
Ça choque pas. Ça fait que maintenant, il y a de plus en plus de mensonges sur toute la ligne. Donc,
disons que la commission des sondages ne fait rien du tout. Et là, en revanche, cette commission-là, elle va jusqu'au bout. Donc, si je récapitule un petit peu. On est passé du porte-à-porte à un questionnaire sur Internet. Certains sondés sont récompensés, ce qui peut influencer les réponses. Les instituts de sondage restent discrets sur les méthodes qu'ils emploient. Et la commission des sondages est très conciliante. Voilà. Et donc, tu veux passer une petite musique ?
Oh non, ouais. Non, mais je pensais.
Je vais terminer avec le cas des primaires de droite et de centre, parce que là aussi, donc ils ont réussi à mesurer la dynamique Fillon dans un premier temps, mais d'après l'une des personnes qui devait travailler là-dessus, bon, il y avait quand même 14 points d'écart, mais c'était extrêmement acrobatique parce que ils auraient dû interviewer 10 000 personnes, il n'y en avait que 400 qui ont été interrogées. C'est cher, ça prend du temps. Et puis, il y a aussi le cas intéressant des retraités, parce que eux ne vont pas sur Internet. Donc, il y a une partie de la population,
mais en fait,
qui vote, et qui vote plus que les jeunes, je pense. Et donc, ils ne sont pas représentés dans leur... Donc, l'échantillon n'est pas assez représentatif, en fait. Mmh. Alors, vous me poserez la question, mais pourquoi continuer si ce n'est pas représentatif?
Bah, ça fait du papier. Le problème, l'important, c'est que les médias puissent imprimer plein de choses.
Non, c'est le coût. C'est le coût de ces études. Les médias commandent des sondages au rabais. Ils ne veulent pas mettre plus d'argent. Donc, des sondages qui ne sont pas toujours fiables. Alors, vous me demanderez combien coûte un sondage?
Combien coûte un sondage?
Merci Virginie. On compte à peu près 7000 euros pour 4 ou 5 questions. Donc 4 ou 5 questions, ça fait quand même un tout petit sondage.
Pour environ 1000 personnes, hein, c'est ça?
Je pense que c'est 1000, le nombre.
C'est environ 1000, c'est pour ça que les journaux peuvent se permettre.
Donc ça donne une vision assez biaisée de l'opinion. Et par exemple, si on prend le cas de l'immigration, qui est un sujet quand même très, très complexe, où les gens... d'une part se méfient ou peuvent se montrer généreux, il faudra en fait une dizaine de questions pour appréhender vraiment le sujet sur la position des Français. Mais c'est un seul chiffre qui est brandi et qu'on lui fait dire ce qu'on veut. Et, voilà, c'est le problème.
Ça devient difficile d'y croire. Donc.
Alors, il y a un autre problème intéressant, c'est le problème de collusion entre sondeurs et hommes politiques. Donc, dans la clientèle, on a donc les médias, des entreprises, mais aussi des élus. Et les sondeurs ne sont pas uniquement sondeurs, mais aussi conseillers politiques.
Oui, alors c'est un peu le même cas dans les produits cosmétiques, etc. Donc, alors, finalement, les sondés sont...
Voilà, il y a un mélange des genres.
Oui, ils ont déjà reçu la pommade L'Oréal, donc ils sont convaincus. La pommade L'Oréal, c'est la meilleure.
Mais voilà, c'est la seule qu'ils ont reçue.
5 kilos gratuits.
Voilà, donc comment un conseiller peut être neutre par rapport à son client? Bon, alors, il y avait quelqu'un qui expliquait, mais non, mais en fait, pour rester crédible, il ne faut pas qu'on soit... qu'on prenne parti. Et il n'en reste pas moins quand même que ces gens-là peuvent aussi être influencés par leur autre métier. Alors, pour terminer, comment peut-on améliorer le système? On pourrait l'améliorer parce que si on prend uniquement les pages Facebook des candidats, par exemple, et là, on peut se rendre compte que si on prend le cas entre Sarkozy et Fillon, Sarkozy a été extrêmement commenté, mais pas partagé. Parce qu'il était apparemment moins engagé que Fillon, et Fillon a été beaucoup plus partagé. Et déjà de là, on peut dégager une tendance. On s'est rendu compte qu'en examinant donc, ce genre de partage, on pouvait déjà avoir une idée. Mais le problème, c'est que de se lancer dans ce genre de recherche, ça coûte deux fois plus cher, et que ce ne sont que des tendances, ce n'est pas vraiment des chiffres. Et il faudrait également vouloir changer le système, faire que les entreprises de sondage soient plus claires, dévoilent un peu leurs chiffres bruts et ne fassent pas dire ce qu'ils ont envie de dire. La Grande-Bretagne l'a fait après le Brexit. Elle s'est remise en question avec une commission d'enquête et des institutions qui ont donné leurs chiffres bruts. Mais en France, on n'en est pas encore là. Malgré le fait que d'après les dernières primaires, les choses ont un peu changé, on commande moins de sondages. Les médias font attention et finalement en montrent moins parce que on est sûr de rien.
Ouais. Le truc que je pensais, en fait, c'est y a peut-être aussi un côté où les sondages sont faits deux semaines avant d'être édités, et je pense que deux semaines avant que les résultats soient édités. Et je pense que de plus en plus, et je pense que c'est un peu la génération Internet aussi, que les gens changent d'avis tout le temps. Et donc c'est assez difficile finalement d'écouter ou de regarder des opinions. Et je pense que si on se projette 40 ans en arrière, je pense que les gens avaient beaucoup plus d'opinions solides.
Franché, oui.
et d'opinion tranchée, et politiquement surtout. Je pense que les gens étaient beaucoup plus de gauche, de droite, et c'était pas certain. Je pense pas que c'était vraiment une question de personne ou de candidat. Je pense que c'était plus une question de les gens étaient de gauche ou de droite ou centristes, ou alors ils étaient.
C'est ce que disait la personne. C'était plus des groupements de personnes, des institutions ou des groupes. Des groupes de gens qui étaient de gauche ou de droite, mais maintenant effectivement ça a éclaté et
je pense que c'est assez difficile aujourd'hui.
Ça fait 20 ans je crois que le groupe de voteurs centre-gauche, centre-droit, et ils disent que c'est environ 40%, et c'est pour ça que des pays comme l'Italie, la France, bizarrement beaucoup de pays latins, ça peut passer 40%, bon, allez, on dit qu'il y a 20% centre-gauche, 20% centre-droit, et donc ces gens s'interchangent, c'est-à-dire tous les 5 ans ou 7 ans, quand c'était Chirac et Mitterrand, et ils pouvaient passer 20% d'un bloc à l'autre, et donc c'est assez énorme.
Et puis elle fait aussi que les chiffres après sont retravaillés, et que et c'est vraiment le problème. C'était donc ce sénateur qui voulait vraiment avoir les chiffres bruts, en disant c'est scientifique, vous faites une démarche scientifique, donnez-moi les chiffres bruts, parce qu'à partir de là c'est quand même plus fiable que d'aller dans un sens ou dans un autre selon que voilà
ce qui en tout cas il y a un sondage qui pourrait être intéressant pour nous qui habitons en Nouvelle-Zélande, c'est de savoir même parmi nous dans le studio qui votera pour les élections françaises.
Moi, je vais essayer, mais bon, je crois que j'ai la carte et le machin. Voulais en parler. Maintenant, la carte, il faut être enregistré sur le consul.
Oui.
Je crois que je suis enregistré, parce que je reçois tous les emails de tout le monde. Oui. Tout le monde même, depuis 6 mois. J'ai monsieur politicien de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui m'invite à leur écouter. J'ai eu la dernière cette semaine, fallait que j'écoute.
Ils essaient de trouver les voteurs.
Donc toi, t'as envie de voter?
Moi, j'ai envie et j'ai... surtout envie de pas laisser l'opportunité à d'autres de voter à ma place. C'est surtout ça. Ça fait 20 ans que je ne vote plus. Ça fait 22 ans que je suis ici. Je n'ai voté que 3 fois. Au tout départ, quand je venais d'arriver, il y a 22 ans, j'ai encore voté 1 ou 2 fois. Et maintenant, je pense que je vais revoter.
Alors, en Belgique, c'est obligatoire. Si on vote pas, on doit payer une amende. Et je me dis que c'est peut-être pas plus mal, parce que je pense que c'est tellement important qu'il faut quand même que les gens ne soient pas une minorité qui vote pour la majorité.
Bien. Donc, toi, tu vas voter ?
Oui.
D'accord.
Non, je ne vote plus. Non, en fait, je votais avant. J'ai voté en Angleterre, mais j'ai arrêté du jour où je me suis dit, finalement, je vis pas dans le pays et je suis pas assez au courant de ce qui se passe pour vraiment avoir une opinion.
Donc tu votes en Nouvelle-Zélande ?
Non, je ne vote plus. Parce que je trouve ça un peu bizarre finalement pour les gens qui vivent en France de se dire que quelqu'un qui vit à l'autre bout du monde va voter pour quelqu'un qui va diriger le pays pendant 5 ans. Et je trouve ça assez. Je pense pas que je sois partie. Je pense pas. Je le prendrais très très bien de savoir que quelqu'un fait ce genre de choses. Donc, du coup, je ne vote plus.
Et pourquoi tu votes pas en Nouvelle-Zélande alors?
Et pour
la France.
Non, mais ici.
Je vote en Nouvelle-Zélande, mais d'accord. Je ne vote pas en Nouvelle-Zélande pour les élections
donc,
françaises.
J'ai fait la même chose que toi pendant 20 ans. Je n'ai plus voté pour la France, parce que j'ai eu la même réflexion il y a 20 ans. J'ai dit, ça devient un peu méchant si on est 2 millions de Français à l'étranger et qu'on se met tous à voter pour un candidat.
C'est ce que fait Erdogan en allant dans les pays
C'est ça, les Turcs,
aux Pays-Bas,
il va en Allemagne
pour avoir son élection.
Mais je me suis dit la même chose que toi. Je me suis fait la même réflexion. J'ai dit, pourquoi ma voix pousserait des candidats que je ne connais plus maintenant? C'est vrai que Chirac, je le connaissais, ça faisait 50 ans qu'il était dans le patelin. Sarkozy un tout petit peu, mais après tous les autres, les nouveaux comme les anciens,
Macron,
Hamon, même Mélenchon, je connais pas, je sais pas d'où ils viennent.
Pourtant, avec Internet, on peut vachement bien s'informer. Enfin, bon, moi, je suis beaucoup plus au courant de ce qui se passe en France qu'ici.
Vrai, mais on n'est pas dans la rue non plus. Moi, mon problème, c'est que je ne suis plus dans la rue française, je ne vis plus comme un Français avec les mêmes idéaux, les mêmes problèmes. Et donc, je me dis, pourquoi j'imposerais à des Français qui ont leur réalité. Moi, ma réalité, elle est néo-zélandaise depuis 22 ans. Donc, je vote en Nouvelle-Zélande pour les élections néo-zélandaises, mais voter pour un vote français, je me dis, mince, c'est difficile. Mais bon, cette année, je vais me forcer. Je crois que je vais voter quand même parce que j'ai pas envie qu'une certaine personne passe. Donc,
c'est bien, c'est bien.
Tu poses la question, tu vas faire quoi, toi?
Toi, tu vas faire quoi?
Personnellement, Je suis un peu de l'avis de Coluche, un homme que j'ai, pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui disait que si voter servait à quelque chose, il y a longtemps que ça serait interdit. Donc, je ne voterai pas. Mais on va se passer une petite musique.
Une petite musique.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit, de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Des navires de guerre battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien moi, y'a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sais plus à rien moi, il n'y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or.
Voilà, c'était Bernard Lavilliers, une chanson un peu super, politique ça. Sur les vrais travailleurs, les ouvriers, hein, pas les politiciens,
t'as
ceux qui travaillent.
Je crois que t'as pas arrêté.
On va l'arrêter.
Et c'est de quelle année ça, tu sais ou pas?
Ah, j'ai aucune idée. C'est tiré d'un album acoustique.
J'adore.
Ouais, ça s'appelle Lavilliers acoustique, les mains d'or, donc sur les ouvriers dans le nord de la France. Vous pouvez vous renseigner.
Ouais, je mettrai ça sur le blog, machin chose. Écoutez-nous sur notre Facebook, notre Mixcloud. Ouais, donc moi ce soir j'avais envie de parler un peu de politique en fait, parce que justement un sondage m'a éclairé des pourcentages un peu bizarroïdes sur seulement 1000 personnes qui votent, 1006. Et c'était dans Le Monde, Libé, ou je sais plus. En fait, j'ai fait le tour de ce qui s'est passé. C'est que j'ai lu le journal de vendredi, samedi, dimanche en Nouvelle-Zélande. Et dans les pages Monde, World, il y a un article sur la France, sur les trois. Sur vendredi, il y avait un article sur la France. Samedi, il y avait un article sur la France. Et dimanche, j'ai fait le Sunday Star Time, là, donc par le Herald. Il y a aussi un article sur la France. Et dans le Sunday Star Time de ce matin, c'est donc... le sondage de 1006 personnes avec Macron et Le Pen en premier. Et je me dis, mais là, on est... et avec Mélenchon très fort à 13% aussi, machin. Et aussi le fait que la donc je suis allé sur Le Monde, Libé, pour essayer de comparer, faire une comparaison des médias étrangers.
Il y a 8 candidats qui sont présentés.
8 candidats présentés et signés, surtout.
Certains qu'on connaît, signature. Certains qu'on connaît pas.
Donc ouais. Donc il y a Mélenchon déjà, il y a Le Pen aussi, il y a Macron, il y a machin chose, comment il s'appelle, machin Fillon. Il y a Hamon, PS.
Hamon.
Et est-ce qu'il y a des dissidents de droite alors? Il y a des verts, hein,
il y a
des verts, je crois.
Il y a Dupont-Aignan qui est... une droite aussi. Il y en a un qui est issu de l'Internet.
Chevènement, ne s'est pas représenté, si. Je crois qu'il avait dit qu'il prenait sa retraite. Non, hein. C'est bon.
Mais ils n'ont pas pris les... Il y a des gens sérieux, quand même, ou...
Bah, c'est ça le problème. C'est ça le problème, là.
Ce qui les oppose beaucoup, c'est entre ceux qui veulent sortir de l'Europe... comme l'extrême gauche ou l'extrême droite,
voilà.
Ou d'autres,
ou les chevènementistes,
ou ceux qui veulent, donc c'est Macron pour le coup qui lui porte la casquette Europe. Et après il y a toute la discussion sur les problèmes donc d'immigration, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Et les problèmes, c'est surtout comment gérer la crise, le
marché de l'emploi, ça fait 20 ans mais personne vraiment l'attaque, donc il y a aucun des 8 candidats qui va attaquer l'emploi, sauf soi-disant les communistes et soi-disant les
Ils l'attaquent bien l'emploi, hein. Ils arrivent bien à augmenter le chômage.
Bon, si on est entre 10 et 14%, je sais pas comment ils l'attaquent bien, mais ça fait 25 ans, je suis parti il y a 22 ans, c'était à 14%.
En fait leur réponse c'est de sortir de l'Europe.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est leur réponse à... Voilà.
Donc en fait, il n'y a pas de plan.
Faire comme les Anglais, en fait.
Oui, mais non. Parce que les Anglais, ils sont déjà à 5%. Et ça fait très longtemps qu'ils sont à 5 ou 6%. Mmh. Donc ils n'ont pas le mal. Et bon, en fait, c'est un faux problème. Donc la vraie réponse, c'est ce que tu as très bien dit, c'était dans l'un des articles de ces 3 jours en Nouvelle-Zélande. C'est The Independent qui l'avait écrit, je crois. C'est ça. C'est en fait, il y a le clan des Européens et des anti-Européens. Anti-européen, extrême gauche, extrême droite, et puis un ou deux gugus au milieu. Et puis pro-européen, surtout Macron. Et puis il disait que Fillon, ça soit un petit peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il veut redonner la France aux Français, mais en même temps.
Sans sortir de l'Europe, il reste dans sa démarche.
Il y a quand même eu beaucoup d'articles sur l'affaire Fillon en disant que les Français étaient totalement habitués à la corruption, que ça les choquait pas du tout, que c'était de toute façon monnaie courante en France.
Ce week-end, les nouvelles, c'est que Fillon, ça y est, il est dans le caca.
Après, les Français s'offusquent du fait que les Français ne réagissent pas par rapport à la corruption, comme les Roumains qui sont descendus dans la rue contre la corruption.
En Grande-Bretagne, ça a carrément les ministres qui sont partis. Enfin, ils ont été plus. Beaucoup plus.
Donc, peut-être qu'il y a un mouvement en France contre la corruption.
On parle de corruption. Quand on regarde les élections américaines, je pense qu'on est un peu plus blasé, de manière générale,
pour avoir vécu en Angleterre et évidemment avoir vécu ici. Je pense qu'on est un peu plus. On nous la fait pas, quoi. C'est un peu ça, la mentalité française. Il y a vraiment ce truc où on se dit. Oui, non, mais c'est bon, la corruption, on sait, ils le font tous, quoi. Enfin, je pense.
C'est exactement la raison pour laquelle la presse étrangère s'offusque de. Ouais, elle a raison, hein, elle a raison, tout à fait raison. Hein. Moi, je leur donne entièrement raison. Mais si on parlait de choses sérieuses.
Un petit peu de rugby, c'est super sérieux. Pourquoi je veux parler de rugby? Bah, c'est parce que j'ai pas la télé qu'il faut, donc je regarde pas le rugby, mais je suis quand même intéressé. Et puis, un peu de cocorico, la France a battu le Pays de Galles de justesse à la 90e minute. Ou centième minute, je ne sais plus, 20 à 18. Fantastique.
Donc ils sont prêts pour venir le battre au Black.
Donc le Pays de Galles en fait n'a gagné que 2 de ses matchs. La France en a gagné 3 ex aequo avec l'Irlande.
Et l'Angleterre
qui vient de battre 13 à 9, l'Angleterre. Donc le grand chelem.
L'Irlande.
L'Irlande a battu l'Angleterre, 13 à 9, oui. Donc l'Angleterre n'a pas fait le grand chelem. N'a pas battu les All Blacks de 19 matchs successifs. Donc ils sont été aussi à 18 matchs successifs. Donc l'Irlande, c'est le porte-malheur des Kiwis et des Anglais.
C'est pour ça que mon mari était tellement content ce matin. Ouais, parce que j'entendais parler des Irlandais, il était super content.
Voilà, c'est ça. Ouais.
D'accord.
Donc l'Irlande très très fort quand même, et puis l'Écosse a battu, mais c'est là où ça s'attendait, 29 à 0 les Italiens. Donc au final
relis ça, ils ont battu 29 à 0 les Italiens.
29 à 0 les Italiens. Les Italiens se sont fait écraser un peu toutes les semaines. Il faut dire que la semaine dernière c'était 40 à 18 pour la France contre l'Italie. La semaine d'avant c'était 36 à 15 pour l'Angleterre. C'était peut-être leur meilleur match en fait les Italiens. 63 à 10, c'est l'Irlande qui a mis ça à l'Italie.
Non, mais l'Irlande, c'est
et
quand même fort.
33 à 7 que pour le Pays de Galles. Donc l'Italie a fait c'est pas fort hein, cette année.
Normalement, l'Écosse, ils sont pas super doués, mais je pense qu'ils reviennent cette année.
Ils ont un entraîneur sympathique. Donc voilà. Qu'est-ce que je faisais?
Je peux parler deux minutes du festival du film français de l'Alliance française.
Ah oui, vas-y.
Alors j'ai vu un film, l'Odyssée de l'histoire de Cousteau,
magnifique.
Qui est très bien, hein, avec
la
magnifique Audrey Tautou et l'excellente Audrey Tautou.
Et Lambert Wilson.
Hein, pour toi.
Qui est magnifique. Alors, moi, je trouve magnifique acteur. Ouais.
Donc un bon film. J'ai vu Planétarium. Alors Rebecca Zlotowski qui a fait deux excellents premiers films, Belle Épine et Grand Central. Au bout de 10 minutes dans ce film, j'avais envie de partir, quoi. Elle a fait un film sur la voyance, en fait, sur des gens qui veulent filmer les phénomènes
paranormaux.
Ouais.
Toi, t'aimes ça, toi.
Donc les séances de voyance en eux-mêmes, on n'y croit pas. Le film a aucun rythme. Je suis allé voir ce film parce que
été sélectionné, il a dit.
Peut-être. Ouais. Et là, Rebecca Zlotowski était à la fin du film pour parler de son film. Et je lui ai posé 6 questions. Je lui ai demandé quelles étaient les raisons pour lesquelles elle avait fait ce film à la beauté en touche. Elle m'a parlé d'autres choses, de Proust. Je lui ai demandé quel message elle voulait faire passer avec son film. Elle m'a pas répondu. J'ai demandé quel film néo-zélandais.
C'est une interview très conclusive, donc.
Ouais, quel film néo-zélandais elle connaissait.
Elle en connaît
et,
pas.
Et pourquoi elle les aimait bien ou elle avait été inspirée par les films néo-zélandais, puisqu'elle est venue en Nouvelle-Zélande. Donc elle m'a parlé des films australiens. je lui ai posé. La question
Elle était bourrée, pétée.
Non, c'est une jeune fille, une jeune femme très bien, qui parle un anglais excellent, et qui est quand même une super réalisatrice.
T'as fait l'entrevue, pourquoi?
J'ai payé mon ticket.
J'étais dans la salle et donc tu t'es levé, t'as posé des questions.
Mais le plus grave, c'est que je lui ai demandé quel était son rapport à la spiritualité et à la voyance, puisqu'elle a fait un film sur la voyance, les gens qui rentrent en contact avec les fantômes, avec les
anges.
Donc elle m'a dit qu'elle y croyait pas du tout. Donc elle a passé 3 ans à faire un film sur des choses.
Mais
donc
dont elle connaît l'histoire du film.
L'histoire du film, c'est ils voulaient c'est des séances de voyance et ils veulent
filmer. Qui marchaient ou qui marchaient pas?
Ils ont pas réussi à filmer les phénomènes paranormaux, mais enfin
donc,
bon bref, les séances de voyance, on n'y croit pas. Moi je suis allé voir des voyants,
elle a fait une démonstration qui montrait que ça c'était pas
ouais donc elle est jeune, hein, ses deux premiers films sont excellents, mais par contre on n'y croit pas, quoi, ce film, quoi, on n'y croit.
D'accord.
Pas.
C'est quoi votre film préféré en Nouvelle-Zélande? Enfin, votre film préféré néo-zélandais?
C'est Dark Horse et puis L'âme des guerriers, bien sûr.
Bon, moi j'aime la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Hein. Je suis pas très.
On n'a plus qu'une minute, hein, c'est ça?
On n'a plus qu'une minute. Hein.
C'est bien.
Mais allez voir les films français.
Allez voir
Planétarium et.
Un homme à la hauteur avec Jean Dujardin et Virginie Elfira. C'était très, très, très chouette. C'était un truc pour aller entre filles et genre du jardin. Et
donc,
pour
les garçons, il faut pas y aller.
Oh, vous pouvez y aller, mais c'est vraiment une gentille comédie romantique.
Vous allez vous ennuyer.
D'accord.
Ah bon?
Non. Non, non, non.
Bon, on se passe. Oh, merci Virginie d'être venue. Elles aussi, ouais, Yvon aussi, David. À la semaine prochaine, je me rappelle plus qui est la semaine prochaine. Je crois que c'est les filles Blandine. Je crois qu'elle a une spéciale des interviews.
Spéciale littérature.
Littérature.
La
voilà, c'est ça.
Exactement.
Blandine et d'autres. C'est intellectuel plus que nous. Donc on se repasse. Roma Amor de Benjamin Biolay.
Super.
C'est assez spécial. On se dit au revoir.
On se dit au revoir et profitez bien de la fin de l'été, quoi.
Oui.
Avant qu'il pleuve.